Périphérie, Édouard Zombo.
La ligne B du RER, c'est une ligne que des millions de personnes empruntent chaque jour. Et ça me paraissait intéressant d'éveiller l'attention de nos contemporains dans la révélation d'inégalités de santé qui atteignent un niveau extrêmement élevé à quelques kilomètres. C'est une forme réelle de discrimination territoriale. Emmanuel Vigneron, je suis professeur d'abord de géographie et de géographie de la santé, tout particulièrement à l'Université de Montpellier. On est ici dans l'un des plus beaux endroits de Paris, le Jardin du Luxembourg. Et évidemment, on est dans un endroit très particulier du point de vue de la santé. Nulle part ailleurs en France que dans les deux arrondissements qui jouxtent le parc du Luxembourg, le 5e et le 6e, il n'y a une telle densité d'offres médicales. Ici, la mortalité est de 30% inférieure à âge et sexe égal pour une personne donnée. Le risque de mourir est de 30% inférieur à la moyenne de l'Île-de-France, enfin du Grand Paris plus exactement.
Quand on est dans ce quartier, aujourd'hui, un enfant a une espérance de vie à la naissance de 6 ans supérieure à celui qu'on va aller voir à la Courneuve tout à l'heure.
Oui, bien sûr, ça ne veut pas dire que cet enfant, dans le cours de sa vie, ne croisera pas des risques très importants, mais il naît avec une espérance de vie qui est de 6 ans supérieure à ceux d'enfants qui jouent au même moment 15 minutes plus loin.
Ici, l'offre médicale, elle est de quel ordre ?
Par exemple, parce que l'offre médicale, c'est beaucoup de choses, mais par exemple, celle des médecins spécialistes libéraux. Le cardiologue, le gastrologue, l'hépatologue. Ici, au Luxembourg, la densité de ces médecins spécialistes libéraux pour 10 000 habitants est presque de 70 pour 10 000. Faisons 15 minutes de métro ou 20 minutes de métro de RER et allons à la Courneuve. Là-bas, la densité des spécialistes libéraux est de 1,6 pour 10 000.
50 fois moins.
Mais exactement, 50 fois moins.
Périphérie sur France Inter.
Regardez qui descend ici maintenant à Châtelet-Léal, la plus immense gare d'échange de France. Qui descend ? Comptez le nombre de personnes bien habillées, de dames avec des jolis sacs, de messieurs en costume avec des ordinateurs qui ont remplacé l'attaché caisse. Et regardons qui va monter en direction de la gare du Nord et au-delà de la banlieue. Les sacs plastiques remplacent les sacs Hermès.
Là, on arrive gare du Nord, on a fait 6 minutes de RER depuis notre entrée au Luxembourg. On a perdu combien en espérance de vie ?
En 6 minutes de RER, on n'a pas nous, parce que nous, on ne fait que passer, mais les habitants qui habitent autour de la station RER de la gare du Nord ont une surmortalité de plus 7%, 10% par rapport à la moyenne de l'Île-de-France, quand ceux d'où nous venons avaient une sous-mortalité de 30% par rapport à cette moyenne. Donc un écart entre eux déjà de 40%.
Donc là on arrive à la gare Stade de France. On a donc fait nos 12 minutes de RER et on a perdu 6 ans d'espérance de vie.
Oui, on a perdu au moins 6 ans d'espérance de vie. Et très concrètement, pour 100 personnes d'âge et sexe égal qui meurent au Luxembourg, autour de Luxembourg, une année donnée, ici, 182 personnes exactement au moment où je l'ai mesuré allaient mourir. Donc un risque, une probabilité de mourir qui est excédentaire de 82%. C'est-à-dire presque le double.
Est-ce que si les gens sont en mauvaise santé, c'est parce que les médecins sont moins bons ou moins nombreux ?
Ils ne sont évidemment pas moins bons. Ils sont donc tout simplement pas assez nombreux. Car sans doute y a-t-il ici des médecins admirables, mais ils ne sauraient être admirables au point de se démultiplier et d'exercer le métier de quatre quand ils sont tout seuls.
Quelles sont les maladies d'ici ? Et quelles sont les maladies du de la station Luxembourg.
Les maladies au Luxembourg et ici peuvent être les mêmes, mais c'est dans leur proportion relative et dans l'âge auquel elles surviennent et dans les effets qu'elles causent, mortels ou pas, qu'elles se différencient. Le cancer, maladie moderne, est aussi une maladie sociale. Le diabète, ô combien une maladie sociale. C'est une réalité absolue et on est en droit, et me semble-t-il, on est surtout dans l'obligation, car c'est une injonction du préambule de la Constitution, de chercher à y remédier. On a trop l'impression, en partant du centre et en allant à la périphérie, d'aller vers le passé. Illustration de ce qui est connu depuis 2500 ans, c'est-à-dire depuis Aristote, comme étant une tare congénitale du progrès, c'est que le progrès se menace lui-même, donc ne vaut rien, disait Aristote, s'il n'est pas partagé.
Premier cours, si vous voulez, nous, on avait un cours de 6 heures avec lui. Et il nous a amenés dans le quartier Monceau à Paris. Là, l'enquête a commencé comme ça, sur le but d'observer un peu les interactions entre les gens dans le parc et surtout les nourrices du quartier.
On était interpellés parce que les nourrices, en fait, du coup, elles étaient donc pas blanches. Et par contre, les petits enfants qu'elles gardaient, ils étaient blancs, en fait. Donc ça nous a interpellés. Donc après, on est allé les voir, on leur a posé des questions, etc. Donc elles ont expliqué qu'en fait, par exemple, elle venait de banlieue. Et en fait, elle venait garder les enfants qui, eux, vivent. Sont des enfants des familles qui vivent dans le quartier Monceau. Laetitia, je suis actuellement en L3 sociologie à Paris 8.
Nejma, j'ai 25 ans et je suis étudiante en sociologie et sciences de l'éducation.
Moi, mon objectif était de faire en sorte que les étudiants puissent avoir accès à un univers qui ne leur soit pas familier, qui soit un petit peu exotique pour eux. Nicolas Jounin, j'enseignais à l'université Paris 8 au département de sociologie entre 2007 et 2014. Pour aller chercher de l'exotique, alors qu'on ne va pas se faire financer plus qu'un ticket de métro, ce n'est pas évident. Donc en regardant où est-ce que va le métro depuis notre université, il traverse notamment le très riche 8e arrondissement, où le revenu moyen annuel d'un foyer fiscal, c'est 82 000 euros pendant qu'à Saint-Denis, Nice et 16 000 euros, donc je me dis il y a peut-être un décalage intéressant à creuser.
De Paris 8 à Paris 8. Le but c'était ça, c'était de faire quelques stations de métro pour entrer dans un monde qui est à l'opposé de celui dans lequel on évolue. Université de Paris 8, l'une des universités les plus pauvres de France, arriver dans le quartier dans les quartiers les plus riches de France, c'est forcément... C'est forcément très différent. Après, on essaye d'y arriver sans préjugés.
Qu'est-ce qui a le plus de préjugés, selon vous, dans cette interaction ? Les observés ou les observants ?
Je pense que, pour le coup, ce serait plutôt les observés. L'expérience la plus marquante niveau préjugés, ce serait mon entretien. J'ai fait un entretien avec une élue du 15e, amie des membres de l'association des Amis du Parc Monceau. Je me suis sentie vachement... vachement dénigrée. Elle est partie du principe que je n'étais pas méritante, pour ensuite en apprendre plus sur moi et changer d'opinion. Donc ça voulait bien dire qu'elle avait des préjugés. C'était beaucoup de choses pendant l'entretien. Il y a eu ça, il y a eu la fois où elle a lu la question « Avez-vous une femme de ménage ?» et qu'elle me dit « Bah bien sûr que j'ai une femme de ménage comme tout le monde. » En fait non, pas comme tout le monde. Tout le monde pour elle, c'est pas tout le monde pour nous, et ça va dans les deux sens. Et je pense que elle a pas su se mettre à la place du petit peuple.
Périphérie sur France Inter.
Alors moi, je vous avouerai que jusqu'ici, je ne savais pas ce que c'était un hôtel particulier. Je savais pas du tout. Et c'est vrai que non seulement je savais pas ce que c'était un hôtel particulier, mais je savais pas que c'était que en fait tout l'immeuble c'est un habitat en fait. Genre la personne elle habite dans tout l'immeuble en fait. Et ça m'avait quand même impressionné. Et puis aussi l'intérieur aussi. La cheminée, les lustres, les dorures, les énormes tableaux de personnages. Enfin. J'étais déjà entrée dans les musées, mais je pensais pas que ça pouvait être un habitat, en fait. Le mobilier, c'était vraiment du mobilier d'art. Enfin, c'était par exemple des fauteuils avec sur les accoudoirs, c'était des petites dorures. Et ce style de fauteuil-là, moi, je pensais qu'il fallait juste l'observer. Je pensais pas qu'il fallait qu'on s'assoie dessus. Et lui, il nous dit, bah, asseyez-vous. Donc, je me suis assise dessus. Ensuite, j'ai mené l'entretien. Et tout ça fait que, en tant qu'enquêteur, en fait, enfin apprenti enquêteur parce qu'on est étudiant, on se pose beaucoup de questions sur, du coup, comme on a un grand bourgeois entre guillemets qui vit dans un vieil hôtel particulier dans les lotissements du parc Monceau, bah, on repense notre manière d'être, notre manière de faire, en fait.
Vous appelez ça des lotissements au parc Monceau, vous ?
Ouais, enfin, je sais pas, enfin, les hôtels particuliers, quoi. Oui, enfin, ouais, moi j'appelle ça des lotissements, non ?
Est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait une entreprise de porosité sociale ?
L'idée était plutôt de contribuer à démocratiser le goût de l'enquête et l'espèce d'insolence qui va avec et qui est généralement plutôt réservée à des individus bien nés. Et là, c'était un peu effectivement de développer un petit peu l'inhibition, le sentiment de sa propre légitimité, aller enquêter et aller rencontrer à peu près n'importe quelle sphère sociale. Mais ça ne change pas fondamentalement la structure, ça ne change pas la structure sociale en tant que telle. Ça permet juste de la parcourir de manière un peu plus lucide et décomplexée. Les étudiants ont pu comprendre un certain nombre de codes, d'institutions, mais ils ont compris aussi justement la solidité des classes sociales, le fait que le statut, les honneurs, le confort matériel dont bénéficient les gens qu'ils ont rencontrés sont solidifiés par un certain nombre de réseaux, d'institutions, de passages par certaines écoles, d'alliances matrimoniales, etc., qui font qu'ils ont relativement peu de chance, comme moi au demeurant, par exemple d'un jour d'être membre du cercle d'Union Interalliée, qui était une des institutions qu'ils ont étudiées.
Vous qui étiez dans la position de l'observateur, à la fois de vos étudiants observants et des habitants observés, selon vous, qui a le plus de préjugés sur les autres ?
Je pense qu'à l'origine, ça se vaut. En revanche, à la fin, comme les étudiants ont fait justement tout un travail d'analyse, de braquer différents projecteurs, de retravailler au fur et à mesure les termes qu'ils utilisaient pour décrire les choses, on les retravaillait ensemble, collectivement, forcément, à la fin, sinon ça n'aurait servi à rien, ça aurait été particulièrement désespérant sur cette démarche pédagogique, à la fin, je pense que les étudiants ont moins de préjugés que leurs interlocuteurs qui n'ont pas fait, à ce moment-là, au moment où ils les rencontrent, le même travail, mais qui, s'ils faisaient le même travail, pourraient également déconstruire les préjugés qu'un certain nombre d'entre eux peuvent avoir sur les banlieues dont sont issus les étudiants.
Est-ce que finalement, vous leur avez pas fait dresser une sorte de constat de la cartographie d'un ghetto, comme le décrit le Premier ministre ?
Oui, tout à fait. Alors évidemment, le Premier ministre, quand il parle du ghetto, il pense plutôt à l'endroit d'où on venait, mais effectivement, si on compare, ne serait-ce que des indicateurs un peu grossiers, comme la structure sociale, la répartition des catégories socio-professionnelles à Saint-Denis, dans le 8e arrondissement et en France, le Saint-Denis a ses spécificités, mais au fond moins éloigné du paysage socio-professionnel de la France que le 8e arrondissement. En termes de revenus, en termes de proportion d'ouvriers, d'employés, de cadres, etc., Saint-Denis est plus proche de la moyenne nationale que le 8e arrondissement, qui en est très loin. Et si on appelle ghetto l'agrégation de gens qui se ressemblent socialement, le 8e est davantage un ghetto que Saint-Denis.